10h-11h sur RCN. Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Bonjour, très heureux de vous retrouver en direct pour cette nouvelle émission qui, comme chaque mois, traite des épilepsies. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour les personnes qui souffrent de cette maladie, la possibilité de se déplacer. C'est le sujet du jour.
10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout.
J'accueille à mes côtés, comme chaque mois et avec plaisir, Céline. Bonjour Céline.
Bonjour Thomas.
Céline, donc de la communauté de. Je sais jamais comment je veux dire, oui. De la COP 54.
On peut dire la COP épilepsie et handicap, communauté de pratique, épilepsie et handicap, collectif de personnes épileptiques, de proches aidants, de professionnels qui se regroupent pour développer des projets dont Et puis c'est tout est un. Voilà, c'est un bébé de la communauté de pratique.
Et on est très heureux de porter ce bébé avec vous.
Merci.
Un bébé dont on très fier. Et pour nous accompagner aujourd'hui sur la thématique dont je parlais il y a quelques instants, épilepsie et mobilité, à nos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Mickaël Ferrand, neurologue au centre de référence des épilepsies rares au CHRU de Nancy. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir. Je crois que c'est pas la première
deuxième
fois chez nous. Et on est très heureux de vous avoir à nos côtés. Vous allez nous expliquer un petit peu tout à l'heure justement, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire quand on souffre d'une épilepsie en termes de mobilité. Ce sera évidemment votre regard d'expert qui va nous intéresser dans un premier lieu. Et nous aurons aussi à côté le témoignage, alors notamment de Ségolène. Bonjour Ségolène.
Bonjour.
Ségolène
Thomas.
Doyon, qui est donc concernée par une épilepsie, une forme d'épilepsie. Ségolène, on va pas mentir à nos auditeurs, on se connaît bien. Tu es bénévole au CRCN, donc c'est pour ça que je me permets de te tutoyer.
Ah, ça me gêne pas du tout.
Bon, avec plaisir. Et puis nous aurons tout à l'heure un enregistrement, celui d'Anaïs Gerbeau, qui est correspondante locale dans l'Aisne, si je dis pas de bêtises, d'Épilepsie France. Elle est membre du conseil d'administration et référente mobilité, c'est bien ça Céline?
C'est ça.
Elle nous racontera un petit peu justement son parcours aussi tout à l'heure.
Oui, son parcours et puis surtout son rôle en tant que référente mobilité et les conclusions contenu dans le livre blanc Épilepsie, produit par Épilepsie France en 2022.
Ce sera donc dans quelques instants, mais avant, et comme chaque mois, on démarre cette émission par des questions qu'on est allé poser aux gens dans la rue. Un micro-trottoir qui a été réalisé par Corentin Clochet, je le cite, qui d'ailleurs est avec nous dans ce studio, mais qui n'est pas au micro, on le salue, Corentin. Corentin est allé poser donc des questions aux gens dans la rue. Peut-être, Céline, on va commencer par la première question.
Ouais. Qui était... Alors, la première question, selon vous, est-ce qu'une personne épileptique peut conduire ?
Je pense pas.
Il y a des risques qu'elle fasse un accident toute seule ou que... Enfin, c'est dangereux quoi pour elle et pour les autres usagers aussi.
Non, en cas de crise, mais les crises préviennent pas.
Non, je pense pas. Je pense que si elle fait une crise sur la route, ça peut mettre en danger les autres automobilistes.
Après, ne pas être autorisé à conduire, c'est un peu fort, mais peut-être pas sous surveillance, parce que non plus c'est pas super, mais... C'est compliqué à voir, ça dépend.
Oui, avec un suivi médical, si jamais un médecin donne son accord, oui, je pense qu'une personne épileptique peut conduire, bien sûr. Parce que si vous privez une personne de se mouvoir, elle va se laisser dépérir. Enfin, la première des choses que les gens adorent, c'est sortir, il fait bon, on se déplace, on va rendre visite à de la famille, des amis, machin tout. Si vous privez une personne de ça, ben, c'est quand même, on l'a tous vécu pendant la pandémie. On a vu ce que c'était, donc, moi je souhaite pas à une personne qu'on lui retire son droit de mobilité, bien sûr que non. Donc, voilà.
Alors, du coup, mon père est épileptique et je sais qu'il avait dû aller voir un médecin et il lui avait prescrit un permis provisoire, comme un permis probatoire en fait. Et il peut conduire, il doit repasser devant le médecin tous les deux ans. Mais si ça devient plus grave, il ne pourra plus conduire parce qu'il y a un risque qu'il fasse des crises au volant et que ça cause un accident.
Pour moi, oui, c'est évident parce que ma cousine, elle fait de l'épilepsie et elle conduit très bien. Et je me sens bien quand elle roule, donc je suis en sécurité. Donc pour moi, oui, il n'y a pas de problème.
Oui, en soi, on peut conduire, mais avec beaucoup de restrictions. Ou en tout cas, c'est quitte ou double. Ça peut ne pas arriver pendant 10 ans une crise d'épilepsie. Ça peut arriver du jour au lendemain, ça peut arriver très fréquemment. Enfin, ça dépend. Donc je dirais oui et non. C'est un peu blanc et noir, mais voilà.
Moi, je pense que oui, mais justement, on devrait faire plus de mesures pour éviter les accidents. Mais je pense qu'elles peuvent conduire quand même.
C'est compliqué si elle est en pleine crise.
Bon, on comprend que le sujet de la mobilité, c'est un vrai sujet, on l'entend dans les témoignages. Je vais vous demander à chacun vos réactions sur ce qu'on vient d'entendre. On a entendu notamment le témoignage d'une personne qui, finalement, connaît quelqu'un concerné par la maladie et qui a à peu près tout dit, je pense, docteur Ferrand. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient d'entendre ?
Alors, tout est très vrai. C'est-à-dire que d'un côté, et je pense que le témoignage de celui qui dit oui, non, et en fait, c'est exactement ça, c'est que Initialement, on a envie de dire non. Pourquoi ? Parce que si on dit crise d'épilepsie, en effet, c'est quelque chose qui peut arriver n'importe quand et qui prévient pas. Et donc, si ça arrive au volant, on comprend tout de suite le risque pour la personne et pour les autres automobilistes. Mais on comprend aussi que retirer le permis, c'est retirer l'autonomie pour beaucoup, notamment dans les régions un peu plus reculées, en campagne, où on n'a pas accès facilement aux transports en commun. Donc, il faut quand même faire une législation qui permette de différencier les types d'épilepsie, la gravité, est-ce que l'épilepsie est contrôlée, pour tout de même permettre à certains de pouvoir prendre le volant, quoi.
On en reparlera évidemment, parce que c'est vrai que on le dit, il y a diverses formes d'épilepsie, donc effectivement vous nous expliquerez si selon la forme, selon là où on en est dans l'état de sa maladie, il y a effectivement des nuances et qu'on peut ou pas passer le permis de conduire. Parce que quand on parle de mobilité, j'ai l'impression qu'on parle forcément de permis de conduire.
C'est souvent par là que ça passe, parce que le permis de conduire permet une autonomie complète, parce que les transports en commun, c'est sûr que ça
c'est plus contraignant.
C'est plus contraignant au niveau des horaires, au niveau de la localisation où on se trouve. Donc, quand on parle autonomie, on parle permis de conduire, d'autant plus que ça, on pourra peut-être en parler, mais il y a un petit peu un vide juridique par rapport au vélo, par rapport à voiture sans permis. Ouais. Et en effet, c'est le permis de conduire qui est vraiment au centre de la législation, en fait.
Alors, si on va au-delà de la législation, Ségolène, on entend aussi dans ce micro-trottoir cet aspect un peu où la mobilité, ça rime aussi avec le côté social et lien social. Oui. On entend quelqu'un qui dit si on peut plus se déplacer, on se laisse dépérir, parce que on l'a tous vécu au moment du Covid, cet enfermement dans la bulle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué dans ce micro-trottoir, qui t'a marqué, Ségolène ?
Qui m'a marqué.
Oui. Et qui te concerne peut-être d'ailleurs ?
Ben, ça m'a concernée, oui, par un temps. une époque où je faisais beaucoup plus de crises, des crises d'angoisse en plus de mes crises d'épilepsie. Je restais plutôt enfermée chez moi parce que j'avais peur de faire des crises dans les bus. Ça m'est déjà arrivé. Et moi, faire les crises en public, comme c'est des grosses crises avec perte de connaissance... Ça finit par l'évacuation aux urgences. Donc, à chaque fois, j'avais la crainte de me trouver mal dans le bus. Et je savais que si ça se passait comme ça, je savais comment ça se finirait, quoi. Donc, j'ai dû faire un gros travail psychologique sur moi pour dépasser cette crainte.
C'est sympa. Et on va en reparler évidemment durant l'émission. Je vous propose qu'on passe à la deuxième question qui a été posée aux gens dans la rue. Céline ?
Oui. D'après vous, quel retentissement l'épilepsie peut avoir sur les déplacements et la mobilité des personnes ?
Déjà un risque si la personne est seule, il y a un risque vraiment pour la personne, quoi. Peut-être toujours être accompagné de quelqu'un.
Je sais qu'il y en a qui sont accompagnés de chiens, je crois. Le chien arrive à savoir si elle va être en crise ou pas, je crois. Mais sinon, si elles sont seules, je pense qu'à tout moment, je crois que ça peut arriver vraiment à n'importe quel moment. Donc du coup, il ne faut pas les laisser seules, quoi.
Les gens ne veulent pas forcément qu'on les victimise. Donc c'est-à-dire que je pense qu'une personne ne le dit pas forcément qu'elle est épileptique lorsqu'elle va dans un lieu. Après, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est vrai qu'une personne, si elle fait une crise, au moins, elle prévient en avance justement qu'elle va à un endroit, qu'elle est épileptique, au moins les gens savent ce que c'est.
Elle peut ne pas pouvoir sortir, ou je sais pas.
Ça peut engendrer un sur de chez sur-accident, parce qu'une crise d'épilepsie en soi, c'est un accident corporel, et ça peut créer un accident mortel ou autre, ça peut vraiment être très dangereux. Hein.
Ça peut avoir des répercussions sur l'ordre social, on va dire.
On peut se retrouver dans un endroit qu'on connaît pas avec des gens qu'on connaît pas, donc ça doit être compliqué. Pouvoir s'en sortir, puis les gens ont tendance à plus trop aider maintenant, je trouve. Donc je pense que c'est là qu'est le problème, se retrouver seul dans l'inconnu.
Ça a des conséquences financières et même un petit peu, je pense, psychologiques.
Être entouré de monde, ça peut être dangereux, parce qu'elle peut se sentir rapidement en danger, se sentir inconfortable, pas en sécurité. Donc elle peut rapidement faire une crise et les gens autour sont pas habilités à gérer cette crise, parce qu'on n'apprend pas l'épilepsie, on sait pas ce que c'est.
On entend beaucoup de choses, mais le lien social revient beaucoup dans ce qu'on vient d'entendre. Qui veut réagir à ce qu'on vient d'entendre de ce micro-trottoir ? Docteur Ferrand, peut-être ?
Ben, Ça montre quand même la complexité justement de l'épilepsie et de la mobilité, parce qu'en effet, quand on a la maladie, il y a plusieurs choses qui viennent nous empêcher de faire tout ce qu'on veut. Et c'est une petite goutte dans la problématique, la conduite automobile. Et voilà, on a parlé juste avant, mais il y a le fait de devoir être en public, de l'intensité des crises. Et si les crises vont engendrer, l'obligation d'arrêter le transport en commun, d'aller appeler le 15. Donc finalement, la mobilité, c'est plus que la conduite automobile dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi l'accès au transport en commun, la facilité aussi à prendre le bus et ne pas avoir la crainte de faire une crise, quoi.
On entend des gens qui disent il faut pas rester seul, mais quand on se déplace, on veut pas forcément être toujours accompagné.
Et oui, et en effet le fait d'être accompagné, de pas prendre les transports seuls, ça peut être sécurisant, mais c'est aussi une perte d'autonomie. C'est aussi un gros travail, et ça, c'est de longues discussions avec certains patients, un gros travail de reprise de confiance en soi et de se dire il y a des choses que je peux faire seul et que je vais faire seul, et ça va gagner dans l'autonomie et dans la qualité de vie, quoi.
Ségolène, tu te déplaces seule?
Oui. Parce que je vis seule. Ouais.
Et du coup, est-ce que ça engendre pour toi des craintes, ou est-ce que pour toi c'est important aussi de pouvoir te déplacer seule ?
Ben, c'est important. J'ai pas trop le choix, en fait. Et surtout, je le fais en fonction de mes périodes de crise, quoi. Je fais plusieurs crises par mois, et ça se répercute sur, par exemple, 2 ou 3 jours. Ça peut aller de 3 à 5 crises en 2-3 jours. Et pendant les périodes-là, j'avoue que je vais rester plus tranquille chez moi. Je vais pas aller m'amuser à me déplacer en bus, ou même, bon, je sors quand même marcher, chercher ma baguette, des petits déplacements comme ça, mais des grands trajets, 20-30 minutes de bus. Non, je laisse tomber comme ça 2-3 jours, et puis après, je m'y remets. La semaine d'après, quoi.
Quand tu te sens plus en forme.
Quand ça va mieux.
C'est une réaction sur ce qu'on vient d'entendre.
Ouais, parce qu'il y a, tout est un peu intriqué aussi. Il y a la peur que la peur que représente le fait de faire des crises en public, dans la rue. On en parlait aussi hors antenne avec Ségolène et Corentin. Comment on gère aussi, alors, le regard des autres d'une part, le recours aux urgences quand la crise survient dans la rue, parce qu'aussi, et on l'entend dans le micro-trottoir, certaines personnes disent bien, mais en fait, on ne sait pas gérer une crise d'épilepsie. Donc, partant de là, les personnes épileptiques, sachant qu'on ne sait pas gérer une crise dans la rue et ne souhaitant pas aller aux urgences, vont se restreindre dans leur déplacement. Ségolène l'exprimait bien lors de la réunion de préparation.
Et nous en reparlera tout à l'heure. Ouais.
Tout ce cycle-là qui est un peu à anticiper pour la personne concernée.
Oui, on entendait des gens qui disaient qu'il faut presque prévenir à l'avance les gens. Et les gens, par exemple, est-ce qu'il faut prévenir, on se posera la question, quand on rentre dans un bus, est-ce qu'il faut prévenir le chauffeur que potentiellement on peut faire une crise d'épilepsie? C'est une question que je pose là, on n'y répond pas tout de suite, on y répondra un peu plus tard. Dernière question qu'on a posée aux gens dans la rue, Céline.
Quelles alternatives, existent à la conduite?
Alors, ça dépend où on habite. Si vous habitez à la campagne, vous êtes fini.
Là, on parle de Nancy, donc à Nancy, c'est bien véhiculé, on va dire. Donc, on peut, se faire conduire. Vous avez les services Bolt, machin, tout. Mais bon, après, quand vous êtes en milieu rural, c'est autre chose. Alors, non, moi, je pense qu'une personne, on ne devrait pas la priver du droit de se déplacer. Donc, mais après, c'est difficile de mettre en place des services de véhicules, de chauffeurs pour ce genre de personnes. C'est très compliqué. Vous avez des services, on va dire, pour le handicap qui viennent vous chercher. Mais c'est pareil, généralement, il faut prendre rendez-vous, il faut prévoir, machin, tout. C'est un peu compliqué. Donc, mis à part si la personne a des proches, compter sur eux, on va dire, pour se déplacer, mais sinon, non, c'est très compliqué.
Bah, je sais qu'il y a dans tous les bus des petits boutons s'il y a un problème, mais souvent, c'est des problèmes s'ils viennent de l'extérieur, une attaque ou quelque chose. Je crois qu'il n'y a rien pour les personnes si elles font une crise, mais je pense qu'il faut former l'entourage, comme ça, si tout le monde est au courant que des personnes peuvent faire des épilepsies à n'importe quel moment, elles pourront aider et venir en son aide dès qu'il se passe quelque chose, quoi.
Ah bah du coup, apparemment le chien.
Je pense peut-être au covoiturage ou au transport en commun, mais c'est vrai que ça reste difficile de vivre sans voiture, surtout quand on n'est pas forcément dans le centre-ville.
Je dirais les transports en commun, le bus, le train. Et
plutôt oui, parce que déjà il y a des gens dans le train, s'il y a à tout moment une crise d'épilepsie et quelqu'un pour secourir, appeler les pompiers, etc., le SAMU.
Dans les situations les plus extrêmes, le taxi, s'il y a. Mais bon, il faut avoir encore les moyens et il faut qu'il y en ait.
Moi, je verrais plutôt une personne qui aurait besoin d'être accompagnée dans ses déplacements. Et par une personne capable de prendre le relais au cas où il y ait un problème.
Se faire transporter, prendre les transports en commun, avoir de l'immobilité, essayer de travailler plus proche de chez soi, se rapprocher, avoir plus des choses de proximité et essayer d'avoir des systèmes de covoiturage ou autre avec des personnes, essayer de s'arranger comme ça, quoi. Je pense que c'est mieux.
Je dirais bien le vélo, mais même le vélo, je pense que c'est encore plus compliqué que la voiture. Donc le vélo, on est encore moins protégé que le reste. Donc les autres alternatives, à part les pieds. Franchement, c'est compliqué.
Le plus sûr pour moi, la marche.
Le plus sûr, la marche, les pieds. Effectivement, on l'entend. Je pense qu'on en reparlera aussi parce que est-ce que c'est effectivement le moyen le plus sûr? En tout cas, on entend aussi beaucoup d'autres alternatives, le bus, le train, parfois même le taxi ou des transports qui pourraient être spécifiques. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, docteur Ferrand?
Le souci, en effet, et il y a une des personnes qui l'a mentionné, c'est le prix, parce que avoir un taxi, en effet, ils peuvent nous prendre à n'importe quelle heure, n'importe où, mais si c'est pour aller au travail chaque jour, ça va être salé, la facture à la fin. Donc, le gros problème, c'est l'organisation, justement, des transports des personnes qui ont une maladie empêchant de conduire. L'organisation en France est encore un peu légère, on va dire.
On entend aussi, hein, au tout début du micro-trottoir, quelqu'un qui dit « ça dépend, si on habite à la ville, ça va, il y a des transports en commun, à la campagne, la personne dit carrément « c'est fini
».
Donc, il y a effectivement aussi cette problématique. J'entendais aussi, on peut réagir là-dessus, mais quelqu'un qui disait « en fait, il faut essayer de travailler plus proche de chez soi, de s'organiser autour de chez soi ». Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'enfermer dans une plus petite bulle quand on souffre d'épilepsie? Est-ce qu'on doit s'empêcher d'aller plus loin? C'est une question que... Ségolène, comment tu le vis, toi?
Moi, j'ai fait le choix de vivre en ville. C'était aussi pour ça, hein, parce que je savais bien que les transports en commun en milieu rural, je pourrais pas me déplacer autant qu'en ville. Donc, j'ai fait ce choix pour ça, oui, pour pouvoir me déplacer.
On va évidemment en reparler pendant l'émission, mais on comprend vite quand même que l'enjeu de la mobilité est très important pour la vie sociale, pour la vie professionnelle aussi, j'imagine. Donc, tout ça, je vous propose qu'on l'évoque un peu plus longuement dans un instant, puis on reparlera un petit peu, on reverra quelle est la législation en France pour les personnes qui souffrent d'épilepsie quant au transport, et particulièrement quant à la voiture, parce que c'est assez étonnant, je ne sais pas ce que vous en pensez, et avant de passer à la première pause musicale, à quel point, quand on parle de mobilité pour les gens, dans l'esprit des gens, c'est la voiture, c'est le permis de conduire.
Oui.
On est d'accord. Et on va en reparler dans un instant. Je vous propose en attendant qu'on écoute Gorillaz, Clint Eastwood. Je crois que c'est qui avait choisi, c'est Corentin qui avait choisi ce titre, qui a fait ce micro-trottoir. On écoute ce morceau et dans un instant, on va expliquer et comprendre ensemble la législation.
Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not his muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless. Right, feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, my future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, my future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, my future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, my future is coming on, it's coming on, it's coming on, my future is coming on, it's coming on, it's coming on, my future is coming on, it's coming on, it's coming on, my future.
Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et ce matin, j'allume mon micro, c'est bien. Et ce matin, nous parlons épilepsie et mobilité. Alors, on se rend compte avec ce micro-trottoir qu'en fait, ça impacte énormément la vie des personnes qui souffrent d'épilepsie, la mobilité. Je vous propose peut-être qu'on commence, docteur Ferrand. Je rappelle que vous êtes neurologue au centre de référence épilepsie rare au CHU de Nancy, rue de Nancy. Mmh. Est-ce que peut-être déjà on pourrait refaire un point sur la législation et puis peut-être refaire un peu aussi le point, parce que on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, mais il y a plein de formes d'épilepsie possibles.
Exactement. Donc la loi, elle est revue assez régulièrement. Le dernier arrêté date de 2022. Il n'y a pas énormément de changements sur le dernier arrêté, mais ça nous laisse quand même un peu plus de flexibilité pour nous, le neurologue, et on peut parfois un peu modifier les durées d'interdiction en fonction du patient et au cas par cas, bien sûr, après validation ensuite du médecin agréé. Donc, pour faire simple, le patient doit passer d'abord par le neurologue, puis par le médecin agréé pour pouvoir de nouveau conduire. Et les règles au niveau de temps, de contre-indication de la conduite, c'est, pour faire simple, un an sans crise d'épilepsie pour pouvoir éventuellement soit passer le permis de conduire si on ne l'avait pas, soit reprendre la conduite automobile. Ce un an peut être modifié selon les patients. Il y a des patients, par exemple, qui font que des crises lorsqu'ils dorment. Si ça fait un an que la personne n'a pas fait de crise pendant la veille, on peut, dans ce cas-là, autoriser, même s'il y a une persistance des crises. Parfois, c'est juste le matin au réveil, il y a des crises, il y a des épilepsies où on va faire des manifestations dans la demi-heure qui suit le réveil et jamais dans la suite de la journée. Donc, dans ce cas-là, on peut entendre que bon, si on attend un minimum de temps avant de prendre le volant, on peut permettre de reprendre la conduite. Et donc, on a quand même des moyens de modifier un petit peu.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, quelqu'un qui fait des crises au réveil, on va dire, vous avez le droit de conduire, mais à partir de telle heure le matin ?
Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire que c'est aussi là où c'est intéressant de faire du cas par cas et de ne pas avoir des règles qui soient elles sont assez strictes, mais on peut quand même modulé. Et si le neurologue amène des arguments suffisants pour qu'on soit en sécurité par rapport à la conduite, le médecin agréé, habituellement, à la suite, il va valider et il suit l'avis du neurologue. Donc c'est un an une fois que l'épilepsie est déclarée, et donc il faut un an sans crise. Pour la conduite des poids lourds, des taxis, tout ce qui est transport en commun, là c'est beaucoup plus compliqué et finalement faut être guéri de son épilepsie. D'accord. Et faut être 10 ans sans crise et sans traitement. Donc faut plus avoir besoin de traitement, faut que l'épilepsie se soit terminée et faut avoir 10 ans de recul. Donc bien sûr,
c'est extrêmement rare ça, non ?
C'est alors la plupart du temps, surtout dans les épilepsies qui démarrent à l'âge adulte, ça nécessite une reconversion et c'est la fin pour les chauffeurs poids lourds, etc. Et il faut absolument changer de métier. Et ça, c'est très compliqué à entendre.
Et c'est ça. Alors, c'est déjà compliqué, me semble-t-il, pour quelqu'un qui a le permis de conduire d'entendre que là, il va falloir qu'il arrête un petit peu. Mmh. Alors effectivement, pour quelqu'un dont c'est le métier, c'est vraiment compliqué, oui.
Oui. Alors on en discutait un petit peu juste avant l'émission, mais dans les consultations d'annonce, de diagnostic, je trouve, moi, beaucoup plus compliqué de faire passer le message de l'arrêt de la conduite automobile que d'annoncer la maladie en elle-même. C'est un peu la double peine, c'est-à-dire que premièrement, on va dire, ce qui vous est arrivé, les malaises, en fait, ça rentre dans une maladie qu'on appelle une épilepsie. Ça va nécessiter un traitement et un traitement que vous allez garder. Et donc déjà ça, c'est un premier palier, et les patients prennent déjà un coup. Pour les patients qui ont déjà le permis, leur dire que pour l'instant c'est pas possible, il va falloir du recul, qu'on s'assure que l'épilepsie soit bien contrôlée et qu'il n'y ait pas de risque d'accident avec une crise au volant, ça c'est d'autant plus compliqué. Et souvent apparaît un moment de négociation.
Ah ouais.
Et les patients ils disent, mais non.
Si je vous donne 50 euros, ça passe. effectivement, c'est compliqué.
C'est la partie compliquée parce qu'il faut leur faire comprendre que déjà la négociation n'est pas utile parce que c'est la loi et que moi je suis juste là pour donner et informer par rapport à la loi et qu'après je ne serai pas là pour aller surveiller que la personne ne prend pas le volant. C'est vraiment. C'est de la perte d'autonomie. Et d'ailleurs, même en allant plus loin, chez les patients qui vont être dits pharmaco-résistants, qui vont continuer à faire des crises et qui ne pourront pas reprendre le volant, les motivations pour aller à la chirurgie de l'épilepsie, qui est une des manières potentiellement guérir, le fait de récupérer son autonomie en récupérant la conduite, ça vient très souvent dans les motivations du patient, quoi.
Alors, si je comprends bien, c'est le neurologue donc qui informe le patient et qui décide si le patient va pouvoir ou pas continuer de conduire. C'est pas comme d'autres maladies où on doit se déclarer en préfecture.
Alors, oui, ça c'est aussi beaucoup de patients qui posent cette question, c'est « mais je n'ai pas déclaré que j'étais malade à la préfecture ». Il n'y a pas besoin de dire qu'on n'a pas le droit de conduire, il faut juste pas conduire.
Ouais,
et c'est au moment où on retrouve le droit de conduire, où il faut faire les différentes étapes, passer devant le neurologue, que le neurologue, lui, donne une première validation, puis passer devant le médecin agréé de la préfecture, qui, lui, va s'assurer que tout est en règle par rapport à la législation et que le neurologue a donné les bonnes informations. Et c'est grâce à ce passage devant le médecin agréé qu'il va y avoir un permis qui va être temporaire initialement, qui va être délivré par la préfecture. Et là, on a de nouveau le droit de conduire. Mais finalement, il n'y a pas besoin de se déclarer comme contre-indiqué à la conduite. On a juste à pas conduire et il se posera, il n'y aura aucun problème. Quoi.
On a, Céline, tu as eu au téléphone Anaïs Gerbeau, qui est correspondante locale dans l'Aisne d'Épilepsie France. Elle est membre donc du conseil d'administration et référente mobilité. En un mot, avant de l'écouter, de quoi on parle avec Anaïs ?
On a réalisé ensemble un petit entretien où elle va nous livrer des retours rapidement de quelques témoignages qu'elle a reçus, puisque Épilepsie France reçoit énormément de témoignages de personnes épileptiques et qui ont besoin aussi d'informations et de conseils. Donc elle va nous relater un petit peu tout ça, relater les freins, en quoi être épileptique constitue pour certains une entrave au déplacement, et puis comment Épilepsie France s'est mobilisée pour pouvoir faire des propositions qui sont remontées au ministère de la Santé notamment et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle va nous parler de tout ça.
Eh bien, on l'écoute maintenant.
Je suis Anaïs Gerbeau, je suis toujours correspondante locale de l'Aisne, du département de l'Aisne, depuis 2019. Dans le cadre de la préparation du livre blanc, j'ai piloté le groupe de travail sur la mobilité. Et donc depuis, j'ai été nommée référente mobilité au sein d'Épilepsie France. Voilà, et donc je suis aussi membre du conseil d'administration d'Épilepsie France.
Alors justement, en lien avec votre rôle de référente autour des questions qui touchent à la mobilité, une première question d'abord, qui serait quel retentissement l'épilepsie peut avoir sur les déplacements et la mobilité en général des personnes ? Voilà, j'imagine que vous avez pu recueillir différentes expériences de vie au sein des témoignages au sein d'Épilepsie France.
Alors le retentissement, il est énorme, surtout pour les adultes. Et encore plus pour les adultes pour lesquels l'épilepsie arrive du jour au lendemain. Par exemple, pour une personne qui a 25 ans, qui travaille déjà, qui a déjà son permis de conduire, ça chamboule tout. En fait, il faut tout repenser dans sa vie. Pour ces personnes qui travaillent, qui sont actives et qui ont l'habitude de se déplacer en voiture, elles pensent en tout cas, elles sont contraintes de mentir sur leur situation et de continuer à conduire malgré les risques pour la sécurité routière. Ça chamboule vraiment toute une vie, quoi. Sauf si on habite dans une très grande ville et qu'on a des moyens de transport en commun facilement accessibles.
Qu'est-ce qui les amène à devoir faire ce choix ?
Bah parce qu'en fait, ils ont peur de devoir tout dire à leur employeur et de dire finalement, voilà, je suis ambulancier ou je fais tel métier qui nécessite de conduire tous les jours et je vais devoir tout arrêter. On a peur en fait que l'employeur ne comprenne pas et que ça se passe très mal en fait. C'est aussi compliqué quand on emmène tous les jours son enfant à l'école, en voiture. Le retentissement aussi, il est sur l'autonomie en général. On a des patients aussi qui nous disent qu'ils ont peur aussi de sortir de chez eux, même de marcher dans la rue parfois pour ceux qui font beaucoup de crises. Mmh. Et donc voilà, le retentissement, il est vraiment encore plus important que ce que je vous disais au début.
Est-ce qu'en lien avec ces empêchements, il existe et qu'est-ce qui existerait comme forme d'aide ou de soutien qui permettent à ces personnes de se déplacer?
Alors, il existe peu de choses, malheureusement, à part le fait de s'entendre dire vous n'avez qu'à prendre les transports en commun ou déménager dans une grande ville avec des transports en commun. Et il faut bien savoir que l'épilepsie, souvent, elle arrive très brutalement dans la vie. Donc, les rares aides qui existent, elles sont compliquées à mettre en place, il faut du temps. Et parmi les aides qui existent, il y a le recours au taxi, c'est un dispositif avec la GFIP pour se déplacer sur son lieu de travail. Mais malheureusement, c'est temporaire en fait, ça c'est plafonné à une certaine somme, je crois. Et donc, c'est pas viable sur la durée, quoi. Donc voilà, les patients, malheureusement, les personnes épileptiques ont très peu d'alternative. Quoi. Et en autre alternative, il y aurait éventuellement le vélo ou la trottinette, mais ça représente aussi un risque, même si on va moins vite qu'en voiture, il y a aussi un risque de crise et ça représente aussi un danger pour la personne. Quoi.
Est-ce que dans les témoignages que vous entendez, est-ce qu'il vous arrive d'entendre aussi des refus de la part des transports en commun ou comment les personnes parviennent à utiliser les transports en commun? Est-ce que là, il y a aussi des entraves, des freins liés à leur épilepsie?
Oui, malheureusement, c'est des choses qu'on a constatées. Même on est parfois intervenu en cas de conflit. Il y a parfois des transporteurs, des chauffeurs de bus ou des compagnies aériennes qui refusent de transporter quelqu'un parce qu'ils l'ont vu faire une crise ou parce que la personne l'a signalé. Donc ça, c'est une discrimination très grave et sur laquelle on peut intervenir. Ouais. On souhaiterait que les professionnels soient formés au risque et comprennent qu'il n'y a pas de danger à transporter une personne épileptique. Quoi. Il faut juste connaître les gestes de premier secours. Quoi.
Tout à fait. Et effectivement, quand vous dites on peut intervenir là-dessus, comment vous vous y prenez au sein d'Épilepsie France pour mener ces actions?
On peut avoir un rôle de médiation, on peut contacter le transporteur, comme on le fait par exemple dans certaines collectivités malheureusement qui interdisent l'accès aux piscines. Alors que c'est pareil, on ne peut pas refuser quelqu'un. Donc nous, on intervient en rôle de médiation, voilà. On essaie de dédramatiser les choses, on essaie d'expliquer la maladie, les risques et surtout les gestes à faire en cas de crise.
D'accord, comme une forme de sensibilisation finalement à l'épilepsie.
Oui, okay. Oui.
J'en arrive à notre troisième question, alors on revient un peu à la mobilité. Effectivement, vous expliquiez en préambule que vous avez mené toute une démarche autour de ces questions-là dans le cadre du dernier livre blanc d'Épilepsie France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus quant à la démarche et aux propositions auxquelles elle a abouti?
On ne voulait pas faire qu'un état des lieux, on voulait aussi faire des propositions concrètes pour améliorer la vie des patients et de leurs proches aussi des aidants. On s'est concerté, on a proposé plusieurs thèmes à nos adhérents, enfin à nos bénévoles surtout. Mmh. Et parmi ces thèmes sont ressortis six thèmes qui étaient particulièrement impactants dans la vie quotidienne. Et donc parmi ces thèmes, donc, il y avait la mobilité. Et ensuite, on a créé un groupe de travail, on a fait des dizaines de réunions pour se concerter sur l'état des lieux, sur les difficultés des patients et des aidants sur ce thème. Et ensuite, donc, on a identifié quelques propositions possibles pour améliorer la situation.
D'accord. Vous pouvez nous faire part de ces propositions?
Oui, alors il y en a deux principalement qui ont été discutées avec le ministère de la Santé, entre autres. Donc il y a la possibilité de créer une nouvelle branche dans la carte mobilité inclusion pour offrir plus d'autonomie aux patients épileptiques. Mmh. Ça s'adresserait à tous les patients, à toutes les personnes qui sont en incapacité de conduire à cause de leur maladie. Donc ça concernerait bien au-delà de l'épilepsie, ça pourrait aussi concerner les patients diabétiques, atteints de Parkinson, enfin de pas mal d'autres pathologies. Donc il s'agirait de créer un accès soit gratuit, soit à tarif réduit au transport en commun pour ces personnes-là. En fait, sur la carte, il y aurait juste la mention « incapacité de conduire » et pas « la personne épileptique ». Donc ça aurait l'avantage de ne pas créer de stigmatisation. Mais cette proposition-là, et il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'obtenir le remboursement de la visite médicale du permis de conduire, qui est obligatoire en fait quand on a le diagnostic. C'est-à-dire que si on passe pas cette visite médicale, si on continue de conduire et qu'on a un accident, on a le risque de ne pas être couvert par l'assurance. Quoi.
D'accord.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire et malheureusement qui est payant. Donc nous, on ne comprend pas pourquoi le patient doit en plus payer des frais pour quelque chose qu'il n'est pas trop enclin à faire en plus. Donc on souhaite que cette visite soit remboursée. Et de même pour les bilans qui peuvent être nécessaires pour compléter cette visite.
D'accord, oui, c'est ça que vous m'expliquiez la dernière fois, c'est que la visite est obligatoire et payante, et en plus, il peut être demandé de réaliser certains bilans qui, eux également, deviennent de fait obligatoires et qui sont payants.
C'est ça, et quand on en a parlé au ministère et aussi à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ils tombaient des nues, ils étaient même étonnés que cette visite soit payante en fait.
D'accord, donc vous avez eu un écho plutôt positif et favorable à ce que vous avez pu proposer.
Oui, on a été aussi auditionné par l'Ordre des médecins qui a aussi ni un avis favorable à nos propositions.
D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pu nous en faire part et on restera plutôt vigilants, voire très vigilants aux évolutions que le ministère apportera aux propositions d'Épilepsie France. Merci beaucoup, Madame Gerbeau.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.
10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout.
Voilà, des propositions intéressantes hein, qui sortent du livre blanc et une information. Le ministère ne savait pas que la visite médicale chez le médecin agréé était aux frais du patient. Voilà, donc c'est bien de le savoir. Je vous propose, on va continuer d'échanger ensemble sur la mobilité, tous ensemble, et on va revenir un petit peu plus sur l'autre mobilité, c'est-à-dire celle avec les transports en commun. On a beaucoup parlé de la voiture, le permis de conduire, mais... on le sait, une des alternatives, c'est le transport en commun, mais c'est pas toujours facile. On en parle dans un instant, peut-être le temps pour nous d'écouter avant The Monkees. Ça, c'est vous, docteur Ferrand, qui avez choisi ce titre.
Ça donne la pêche.
Eh ben, prenons ce petit shoot de pêche tous ensemble maintenant avec The Monkees. I am a believer. I thought love was only true in fairy tales. And for someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't. I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. And I'm a believer.
RCN, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Ce matin, nous parlons donc d'épilepsie et de mobilité. Alors, on a longuement parlé du permis de conduire, de la voiture, de la législation qui est stricte et à la fois qui donne quelques souplesses quand même et aux médecins neurologues de pouvoir adapter l'interdiction en fonction aussi du patient. Quoique, et si vous n'étiez pas là au début de l'émission, y a des métiers qu'on peut plus faire. On l'a bien compris. Maintenant, il y a des alternatives qui existent et je me tourne vers toi, Ségolène. Toi, par exemple, tu es usagère du bus.
Oui, c'est ça.
C'est ton alternative à toi. Mmh. On comprend bien que concrètement, toi, alors le permis de conduire, tu l'as jamais passé.
Non, comme je suis épileptique depuis l'enfance, j'ai jamais eu l'occasion de le passer. J'ai ni le code ni le permis, donc du coup, au moins, ça fait. Ça me manque, je vais pas dire que ça me manque pas, mais comme
ça
j'ai
manque moins que
jamais
si tu l'avais
que
déjà
si
eu.
Je l'avais déjà eu, tout à fait, oui, c'est ça.
Alors du coup, ça t'oblige quelque part à revoir un peu ta vie. Tout à l'heure, dans le micro-trottoir, quelqu'un disait, bah, en fait, il faut s'organiser, trouver un boulot à côté de chez soi, etc. etc. Et on entendait aussi cette idée que si on n'habite pas en ville, c'est très compliqué. Mmh. Toi, je crois, donc tu habites en ville,
oui,
à Nancy. Alors, tu me disais, hors antenne, je vais un peu spoiler là, la fin de l'histoire, mais que tu y habiterais peut-être, même si t'étais pas épileptique, mais n'empêche que ça reste un choix contraint.
Ben, oui. Oui, oui, c'est vrai. Habiter en ville, c'est un peu à cause, entre guillemets, de mon épilepsie, oui. Je vais dire, c'est quand même pas un manque, le fait de pas habiter à la campagne, en milieu rural. Il y a des gens chez qui ça pourrait manquer la nature et devoir supporter le bruit de la ville, des personnes. Pour le moment, je vais dire, ça ça me manque
ça
pas
te manque
encore.
Pas, ouais.
Quoi.
Mais ce que tu dis est juste, il y a peut-être des gens qui, eux, pourraient préférer la vie à
oui.
la campagne
ah ben,
et qui, pour
oui.
des raisons sociales et professionnelles, parce qu'ils ne peuvent pas prendre les transports, doivent rester en ville.
Ouais. Ah ben, tout à fait, oui, c'est sûr. C'est sûr, il doit y avoir des personnes comme ça, oui.
Alors, pour ce qui te concerne, donc toi, tu prends le bus, tu le disais, alors... moins ou pas du tout quand tu es dans une phase où tu vis des mauvaises périodes.
Ouais.
On rappelle que pour ce qui te concerne, toi, tu as une épilepsie avec des crises régulières et des crises qui sont des crises convulsives.
Oui, avec perte de connaissance.
Et perte de connaissance. Ouais. Donc, effectivement, pour toi, bon, la voiture, on comprend bien que c'est compliqué, c'est pas possible. Mais tu disais donc le bus, quand il y a des périodes à crise, tu le prends pas. Pourquoi ?
Ben... Parce que le fait de me trouver mal dans le bus, les gens me voient, bah je perds connaissance et ça se finit aux urgences, quoi. À chaque fois que je fais des crises en public, comme je suis inconsciente, ça fait très peur aux personnes, je réponds pas, je pourrais tomber de mon fauteuil de bus parce que je suis toute raide, je peux convulser. Et quand je suis toute seule, s'il y a personne à côté qui est à côté de moi, oui, ça se finit toujours aux urgences. Et avec les années, j'en ai un peu assez de me retrouver aux urgences parce que ça ne m'apporte rien. Je dois attendre des heures là-bas. Et pour aucun gain, quoi. C'est plus de fatigue. Alors que si je rentre me reposer tout de suite chez moi, voilà, je suis mieux à me reposer chez moi que devoir attendre longtemps.
Alors peut-être qu'on peut le rappeler, docteur Ferrand, quelqu'un qui vit une crise, on ne doit pas forcément l'amener aux urgences.
Et voilà, bah, en fait, c'est compliqué. Moi, je me mets à la place des passants. Hein. C'est compliqué de voir quelqu'un faire un malaise, perdre connaissance. Et eux, ils ne sont pas au courant de la maladie. Et ils ne savent pas si c'est la première crise ou si ça fait 20 ans que la personne, elle vit ça. Et donc... La réaction est tout à fait normale, donc on peut pas en vouloir bien sûr aux passants.
Sûr. Non, j'en veux pas. Ben non, non, je vais pas dire que j'en veux.
C'est pas ce que je dis, mais en fait, c'est la suite logique des choses. Et même, je trouverais ça triste que personne n'appelle les urgences, parce que, en effet, bah, pour certaines personnes, c'est nécessaire, parce que la crise, elle peut durer plus longtemps, parce que ça peut être la première crise. Mais en effet, quand on perd connaissance, bah, on peut pas prévenir les personnes autour que, bah, vous inquiétez pas, je connais ça par cœur.
Ça va revenir
et j'ai pas besoin d'aller aux urgences. Donc c'est toujours très compliqué.
J'ai même une carte reconnaissance avec ma reconnaissance épileptique, mais sur ma carte, c'est pas possible d'écrire dessus inutile parce que moi aussi, peut-être que ça pourrait être utile si je fais une suite de crise ou un état de mal.
Exactement.
Il y aurait besoin quand même.
Oui, c'est ça, parce que si on rappelle peut-être en un mot, une crise qui survient comme ça, si c'est, on va dire, 2-3 minutes, bon, c'est pas non plus dramatique. Ce qu'il faut, c'est protéger la personne pour pas qu'elle se blesse concrètement.
Voilà, donc. Déjà, il faut connaître les premiers gestes, secours, les gestes à faire. Et ça, c'est un problème aussi d'information, de formation de la population générale. Et une crise peut, en effet, être...
peu grave, parce que c'est toujours embêtant de faire une crise, mais ça peut être une crise habituelle qui va se résoudre très rapidement, en moins de 5 minutes, c'est ce qu'on dit habituellement, et finalement avec un retour à l'état antérieur, et il s'agit juste de revoir avec le neurologue pour réadapter le traitement, voir ce qu'on peut faire, mais dans l'urgence, il n'y a rien de particulier à faire. Mais en effet, ça peut être une crise plus compliquée, et ce qu'on appelle aussi les états de mal, avec une crise qui ne veut pas céder toute seule. Et si on n'intervient pas en mettant des traitements, donc s'il n'y a pas d'arrivée du SMUR et de passage aux urgences, la crise ne va pas s'arrêter toute seule. Mais ce n'est pas facile, au premier abord, pour les passants de savoir si c'est une crise gentille ou méchante.
Alors, voilà. Ce qui est compliqué aussi par rapport à ça, et c'est une vraie question, est-ce qu'il faut prévenir dans ces cas-là, je ne sais pas, le chauffeur du bus, un passager autour de soi, que bah, potentiellement, on peut faire une crise d'épilepsie dans le bus?
Alors non, je pense pas. Alors c'est mon point de vue personnel, mais on va pas aller prévenir toutes les personnes qu'on croise qu'on peut aller faire une crise. Ça augmente notre anxiété, ça augmente l'anxiété des personnes autour. Ça peut amener dans des situations où on nous refuse, même si c'est pas, ils ont pas le droit, mais ils nous refusent l'accès à un transport. Donc mieux vaut le garder pour soi. Mieux vaut faire une formation, une information générale à toute la population pour réagir vraiment si une situation de ce genre arrive. Mais pour vivre le plus normalement aussi, on a le droit de garder secret ces maladies. Et c'est notre droit et c'est tout à fait normal.
Ségolène, je te pose la question. Tu demandes pas, tu préviens pas les chauffeurs?
Non. Non, parce que, bah, comme je disais, j'y vais en fonction de
ton état.
Donc, en général, ça se passe, plutôt bien, entre guillemets. Oui, j'ai pas fait souvent de crise dans le bus ou dans le train. Le train aussi.
Oui, c'est
vrai.
Oui.
Oui. Oh. Parce que j'ai choisi une période, où ça allait. J'ai choisi des périodes qui me vont bien.
Il y a deux aspects dans ce que dit Ségolène, je me permets, parce qu'on se connaît aussi un petit peu depuis quelques années. Il y a le fait que tu connaisses aussi très très bien ton épilepsie, quel contexte les crises peuvent survenir, parce que tu expliquais aussi hors antenne que dans ces périodes où les crises surviennent, la fatigabilité va être en jeu sur la survenue de crise et dans le bus, on n'est pas encore à un niveau de solidarité et de connaissance de l'épilepsie très fort, et donc les personnes vont pas laisser leur place. Donc il y a la contrainte d'être debout dans le bus, au milieu du monde, dans le bruit, quelquefois la chaleur, en tout cas dans quelque chose de très contenant. Et ça peut être un contexte qui est pas favorable ou qui pourrait être défavorable dans les moments où tu es un petit peu plus fragilisé par les crises. Et du coup, parce que tu sais aussi tout ça, tu sais ajuster. Tu sais organiser.
Oui, c'est sûr que c'est l'expérience, le temps. Il y a quelques années, j'étais pas aussi à l'aise, c'est sûr. Ça s'est amélioré avec les années.
C'est important, je pense, de se connaître dans ce genre de situation, docteur Ferrand, pour savoir si... Enfin, le cas de Ségolène, je pense que tous les patients ne peuvent pas ou ne sont pas à son niveau de connaissance de leur épilepsie, mais ça reste quand même aussi, quelque part, presque un enjeu pour pouvoir vivre bien la mobilité, non ?
En effet, chaque épilepsie est différente, et le cas de Ségolène, c'est le cas de beaucoup de patients qui se connaissent au fil du temps, mais malheureusement, il y en a toujours qui n'ont pas de facteurs favorisants. Ouais. C'est ce que nous, on appelle les facteurs favorisants, où il y a des situations où on sait très bien que là, on prend des risques, on est fatigué, on est beaucoup stressé. De manière générale, c'est souvent ce que rapportent les patients, mais parfois, il n'y a aucun facteur favorisant, et ça arrive vraiment n'importe quand. Et là, pas moyen de prévenir, et donc c'est d'autant plus dur d'essayer de gérer son quotidien en fonction de notre état, parce que ça arrive n'importe quand, et ça majore souvent l'anxiété d'ailleurs, parce que on n'en parle pas beaucoup, mais il y a la maladie, il y a l'épilepsie, mais il y a tout ce qu'il y a à côté, et notamment le retentissement au niveau psychologique et l'anxiété anticipatoire des crises, c'est ce qu'on l'appelle.
Ce que disait Ségolène d'ailleurs tout à l'heure, elle le disait, des fois c'est la peur de se dire je vais peut-être avoir une crise au milieu des gens et avec le regard des autres.
Et ça c'est quasi tous les patients.
Donc ça, on comprend que c'est très handicapant quelque part quand on parle de mobilité. L'émission va bientôt se terminer, mais je voudrais quand même revenir sur une chose qu'on a entendue à plusieurs reprises, c'est l'entrave de la part de chauffeurs ou de compagnies aériennes au transport. Vous disiez, je crois, docteur Ferrand à l'instant, c'est quelque chose qui est totalement illégal. On doit pouvoir prendre, quand on souffre d'une épilepsie, on doit pouvoir prendre le bus. Quoi qu'il arrive.
Oui. Donc ça, ils n'ont pas le droit de refuser. Hein, ça, c'est certain. Après, moi, je conseille toujours, notamment pour l'avion, hein, je conseille toujours à mes patients de justement d'être dans un moment où c'est un peu plutôt calme sur l'épilepsie pour prévoir des voyages en avion, parce que on comprend que c'est beaucoup plus complexe d'arrêter un avion et de se poser que d'arrêter un bus. Mais en soi, il n'y a pas de contre-indication absolue pour prendre l'avion.
Alors après, c'est peut-être ça aussi, Ségolène, tu disais tu prends le train, l'avion, tu le prends de temps en temps?
Oui, je l'ai déjà pris, mais pas seul par contre. Je l'ai jamais pris toute seule, non. Ça, voyage en avion seul...
Bon, déjà, 80% des gens ont peur de l'avion, hein. Il n'y a pas non plus... Et aiment bien être accompagné, mais bon, c'est vrai que...
Mais ouais, les fois où je l'avais pris avec mes parents, ça s'était bien passé. Hein. J'ai pas la phobie.
T'as pas la phobie de l'avion, ouais. Donc, en tout cas, on le renote bien. Hein. On ne peut pas entraver une personne dans sa mobilité, que ce soit en bus, en train, en avion. Peut-être simplement, effectivement. Alors, anticiper, c'est pas toujours simple quand même. Quand on prend l'avion, parce qu'il y a aussi le prix des billets. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Est-ce qu'il faut s'interdire pour autant de prendre l'avion?
Eh bien non, parce que justement c'est se donner encore plus de contraintes finalement. La législation est déjà assez complexe et réduit notre autonomie et la mobilité. Faut pas se rajouter des barrières
d'autres
en plus,
ouais.
Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà.
On est bien d'accord. Je vous remercie d'être venu ce matin parler dans cette émission. Merci Ségolène d'être venu témoigner.
Merci
Mickaël, avec plaisir. Mickaël Ferrand, je rappelle, vous êtes neurologue au centre de référence des épilepsies rares au CHRU de Nancy. On avait tout à l'heure aussi Anaïs Gerbeau, correspondante locale dans l'Aisne d'Épilepsie France, membre du conseil d'administration et référente mobilité. Avant de passer très rapidement aux ressources, juste remercier avant qu'on l'oublie, parce que c'est important, Corentin aussi qui a contribué à cette émission avec le micro-trottoir. Les ressources avant de finir l'émission.
Très rapidement, oui. pour comprendre le sujet, le livre blanc bien sûr d'Épilepsie France avec toute la partie autour du thème de la mobilité, c'est le thème 4, page 50, et un webinaire aussi qui est très bien fait par Épilepsie France de 2022. Si on veut comprendre les aides qui existent et notamment les aides accessibles à travers les aides de la Maison départementale des personnes handicapées, ce qui va concerner la PCH Transport sur le site EFAP et la carte mobilité. Et puis, quand on se déplace, et notamment quand on prend l'avion et qu'on veut avoir un petit passeport avec soi au cas où quelque chose arrive, le passeport épilepsie du CBCAIR. Voilà.
Ben merci beaucoup. On vous mettra toutes ces références sur la vidéo en lien. Vous le verrez en dessous de la vidéo. Voilà. Merci à vous toutes et vous tous. On espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et puis, encore une fois, la mobilité, on l'a bien compris, c'est extrêmement important pour tout le monde. On l'a bien noté ce matin. Merci à tous. On va se quitter en musique avec Doshi.
Merci beaucoup.
Ça peut.
Bon, ouais, oui, c'est un titre que Sylvie a choisi. Belle fin de journée à tous. Belle journée à tous.
Bonne journée.
Juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.